Bertrand et Bimi. C'est l'orang-outan du fond de la grande cage de fer amarrée aux crèches à moutons qui entama la discussion. La nuit était suffocante, et comme nous passions à hauteur de la cage avec Hans Breitmann, l'Allemand à pesante carrure, traînant notre literie vers l'avant du steamer, il s'éveilla et se mit à jacasser obscènement. On l'avait pris quelque part dans l'archipel malais, et il allait en Angleterre se faire exhiber à un shilling par tête. 4 jours sans cesse il avait lutté, hurlé, secoué les lourds bateaux de sa prison, et entre-temps failli oxyre un lascar assez imprudent pour passer à portée de l'énorme main poilue. « Ça te ferait du bien, mon ami, d'avoir un peu le mal de mer, » dit Hans Breitmann en s'arrêtant près de la cage. « Tu as trop d'ego dans ton cosmos. » Le bras de l'orang-outan glissa négligemment entre les barreaux. Nul ne put croire qu'il allait se projeter soudain avec la détente d'un serpent qui attaque vers la poitrine de l'Allemand. La soie légère du costume de nuit se déchira. Hans fit un pas en arrière comme si rien n'était arrivé et cueillit une banane à un régime qui pendait près d'un des canaux. « Trop d'ego, » dit-il, tout en pelant le fruit et l'offrant au démon encagé qui lacérait la soie en lac. Puis nous étendîmes notre literie à l'avant, parmi les lascars endormis, pour tâcher de saisir le peu de brise que la marche du bateau nous pourrait donner. La mer ressemblait à une huile fumante, sauf là où elle devenait flamme au fil de l'étrave, sitôt disparue dans la nuit en tourbillons et en traînées de feu pâle. Il y avait un orage à quelques milles, on voyait danser la lueur des éclairs. La vache du bord, inquiète de la chaleur et de l'odeur du singe dans la cage, meuglait de temps en temps, d'un ton plaintif, sur la même note exactement où la vigie répondait toutes les heures à l'appel de la passerelle. Le trépignement qu'annonçaient les machines montait très distinct, et le retentissement du panier aux escarbilles, comme on le chavirait dans la mer, heurtait cette continuité de bruit assourdi. Hans se coucha à mon côté et alluma un cigare. D'où naturellement un début de conversation. Il possédait une voix aussi berçante que le ressac de la mer et les provisions d'expérience plus vastes que la mer elle-même. Car son affaire dans la vie était d'errer de haut en bas du monde, à la recherche d'orchidées, de bêtes fauves et de spécimens ethnologiques pour des marchands allemands et américains. Je voyais le bout allumé de son cigare rougir et pâlir dans l'ombre, les phrases s'élever, tomber sur leur cadence monotone. Je sentais que j'allais dormir. Mais l'orang-outan, troublé par quelques rêves des forêts de sa liberté, se mit à hurler comme une âme en purgatoire et à secouer frénétiquement les barreaux de la cage. S'il était dehors en ce moment, il ne resterait pas grand-chose de nous par ici, dit Hans nonchalamment. Il crie bien, voyez maintenant, je vais l'apprivoiser quand il s'arrêtera. Il y eut une pause dans la clameur, et de la bouche de Hans sortit une imitation du sifflement d'un serpent si parfaite que je faillis sauter debout. Soutenu, continu, le bruit assassin courut le long du pont et l'on n'entendit plus grincer les barreaux ébranlés. L'orang-outan grelottait en une extase de pure terreur. « Ça, ça l'a fait taire, » dit Hans. « J'ai appris ce tour à Mongong Tanjong, quand je faisais collection de petits singes pour des gens à Berlin. Tous les animaux du monde ont peur des singes, excepté le serpent. Alors, je joue serpent contre singe, et il reste quoi ?» Il y avait trop d'ego dans son cosmos. « Êtes-vous endormi ou voulez-vous écouter ? Et je vous dirai une histoire que vous ne croirez pas. »« Il n'y a pas d'histoire en ce bas monde que je ne puisse croire, » dis-je. « Si vous avez appris à croire, vous avez appris quelque chose. Maintenant, j'éprouverai votre croyance. »« Bien. » »« Quand je faisais collection de ces petits singes, c'était en 79 ou 80, et j'étais dans les îles de l'archipel, là-bas dans le noir. Son doigt montrait le sud dans la direction générale de la Nouvelle-Guinée. « Mein Gott ! J'aimerais mieux faire collection de diables rouges en vie que ces petits singes. Quand ils ne vous emportent pas un doigt d'un coup de dent, ils sont tout le temps à mourir de nostalgie, mal du pays, à cause de la main parfaite qu'ils ont, arrêtée à mi-chemin de son développement, et trop d'ego. Je restais là pendant un an, et j'ai rencontré un homme qui s'appelait Bertrand. C'était un Français, naturaliste jusqu'aux moelles. On disait que c'était un forçat évadé, mais il était naturaliste, cela me suffisait. Il appelait toutes les bêtes vivantes du fond de leur forêt, et elles venaient à lui. Je lui disais qu'il était Saint-François d'Assise, revenu sur la terre par transmigration, et il riait, disant qu'il n'avait jamais prêché aux poissons. Il les vendait contre du tripang, bêche de mer. Et cet homme, qui était le roi des charmeurs de bêtes, avait dans sa maison le pareil tout à fait de cet animal diable, là-bas dans sa cage. Un grand orang-outan qui se croyait un homme. Il l'avait trouvé quand il était petit, l'orang-outan. Et c'était un fils, un frère, opéra comique et tout ça pour Bertrand. Il avait sa chambre dans cette maison, pas une cage, une chambre, avec lit et drap. Et il se mettait au lit, il se levait le matin, il fumait son cigare et mangeait son dîner avec Bertrand. Se promenait même avec, en lui donnant la main, ce qui était tout à fait horrible. Ergot, j'ai vu cette bête se renverser dans sa chaise et rire quand Bertrand me plaisantait. Non, ça n'était pas une bête, c'était un homme. Et il parlait à Bertrand, et Bertrand comprenait, je les ai vus. Et il était toujours poli avec moi, excepté quand je parlais trop longtemps à Bertrand et que je lui disais des rien. Alors, il me tirait dehors. Oui, ce gros démon noir avec ses énormes pattes, comme si j'avais été un enfant. Ce n'était pas une bête, c'était un homme. Cela, je m'en aperçus avant de l'avoir connu 3 mois, et Bertrand, il voyait la même chose. Et Bimi, l'orang-outan, nous comprenait tous les deux et riait, son cigare entre ses grandes canines, en montrant ses gencives bleues. Je passais là 1 an. Là, et dans les autres îles, quelquefois pour des singes, d'autres pour des papillons et des orchidées. Une fois, Bertrand me dit qu'il va se marier, parce qu'il a trouvé une jeune fille qui faisait l'affaire. Et il me demande si je trouve bonne son idée de mariage. Je ne dis rien, parce que ce n'était pas moi qui me mariais. Là-dessus, il s'en va faire la cour à la fille. C'était une métisse française, très jolie. « Avez-vous du feu ?»« Ouf, très jolie. » Seulement, je dis, « Avez-vous pensé à Bimi ? S'il me tire de ma place quand je vous parle, que fera-t-il à votre femme ? Il la tirera en morceaux. Si j'étais vous, Bertrand, j'offrirais à ma femme pour cadeau de noces l'image de Bimi empaillée. » Déjà, à ce moment, j'avais appris les choses sur les singes. « Le tuer ?» dit Bertrand. « Il est à vous. » Je dis, « S'il était à moi, il serait tué déjà. » Alors, je sentis au dos de ma nuque les doigts de Bimi. « Mein Gott !» Je vous dis qu'il parlait à travers ces doigts-là. C'est l'alphabet sourd-muet et tout complet. Il passe son bras poilu autour de mon cou, il me lève le menton et me regarde dans la figure, rien que pour voir si je comprenais son langage aussi bien qu'il comprenait le mien. « Regardez-moi ça, dit Bertrand, et vous voudriez le tuer au moment où il vous caresse. La voilà bien, la gratitude teutonne. » Mais je savais que j'avais fait de Bimi un ennemi pour la vie, car ses doigts causaient de meurtre à travers la peau de ma nuque. Quand je revis Bimi, il y avait un pistolet dans ma ceinture. Il le toucha une fois, et j'ouvris la culasse pour lui montrer qu'il était chargé. Il avait vu tuer le petit singe dans les bois, il comprit. Lors donc, Bertrand se maria, et il oublia Bimi qui dansait sur la plage avec sa moitié d'âme humaine dans le ventre. Je le voyais danser. Il prenait une grosse branche et fouettait le sable jusqu'à ce qu'il eût creusé un grand trou, comme une fosse. Alors je dis à Bertrand, « Pour l'amour de Dieu, tuez Bimi, il est fou de jalousie. » Bertrand dit, « Il n'est pas fou du tout, il aime ma femme et lui obéit. Si elle lui dit, il ira chercher ses pantoufles. » Et il regarda sa femme à travers la chambre. C'était une très jolie fille. Alors je lui dis, « Et vous avez la prétention de connaître quelque chose au singe quand vous laissez cette bête devenir enragée à force de battre le sable parce que vous ne lui parlez pas ? Envoyez-lui un coup de fusil quand il viendra à la maison. » Car il a dans les yeux le feu de la mort, de la mâle mort. Bimi vint à la maison, mais il n'y avait pas de flamme dans son œil. C'était tout caché pour l'instant par ruse, par sacrée ruse. Il va chercher ses pantoufles à la femme, et Bertrand se tourne vers moi et dit « Le connaissez-vous mieux depuis 9 mois que je ne l'ai connu en 12 ans ? Un fils peut-il frapper son père ? Je l'ai nourri et il était mon fils. Ne nous racontez plus ces bêtises à ma femme ni à moi. » Le jour suivant, Bertrand vint à ma case afin de m'aider à faire des caisses en bois pour les spécimens. Et il me dit qu'il avait laissé sa femme quelques instants dans le jardin avec Bimi. Alors je finis mes caisses en 2 temps et je dis « Allons chez vous prendre un verre ». Il rit et répond « Allons-y, bois sans soif ». La femme n'était pas dans le jardin et Bimi ne vint pas à l'appel de Bertrand. Et sa femme non plus ne vint pas à son appel. Et il frappa à la porte de sa chambre, elle était fermée à clé, double tour. Alors il me regarda, et sa figure était blanche. J'enfonçai la porte d'un grand coup. Le chaume de toit avait un grand trou et le soleil frappait sur le plancher. Avez-vous vu des papiers déchirés dans une corbeille ou un jeu de whist épars sur une table ? Il n'y avait plus rien là qu'on pût appeler une femme. Il y avait du... quelque chose par terre et voilà tout. Je regardais tout ça et j'avais mal au cœur. Mais Bertrand regarda un peu plus longtemps ce qu'il y avait par terre et sur les murs et le trou dans le chaume. Alors, ils se mirèrent doucement et sans bruit. Et je vis, Dieu merci, qu'il était devenu fou. Il ne pleurait pas, il ne priait pas. Il restait immobile dans l'embrasure de la porte, à rire tout seul. Puis il dit, « Elle s'est enfermée à clé dans cette chambre et il a arraché le chaume. Fi donc, voilà ce que c'est. Nous raccommoderons le toit et nous attendrons Bimi. Sûrement il viendra. » Nous attendîmes dans cette maison 10 jours, comme je vous le dis, et une fois ou deux nous vîmes Bimi s'avancer de quelque part hors des bois. Il avait peur parce qu'il avait fait mal. Bertrand l'appela quand il sortit pour voir le 10e jour, et Bimi arriva en gambadant le long de la plage et poussant des petits cris, avec une longue mèche de cheveux noirs qu'il tenait à la main. Alors Bertrand rit et dit « Fi donc !» comme pour un verre cassé à table, pas plus. Et Bimi va plus près. Et Bertrand faisait sa voix douce, douce, et riait tout seul. Pendant 3 jours, il fit des mamours à Bimi, parce que Bimi ne voulait pas se laisser toucher. Puis, Bimi vint dîner à la même table que nous, et les cheveux qu'il tenait étaient tous noirs et poissés de ce qui avait séché sur ses mains. Bertrand lui donna du sangari jusqu'à ce que Bimi fût saoul comme une brute, et alors Hans s'arrêta pour faire tirer son cigare. « Et alors, dis-je ?» Et alors, Bertrand le tua de ses mains, et j'allais faire une promenade sur la plage. C'était l'affaire de Bertrand. Quand je revins, le singe était mort, et Bertrand en train de mourir sur le corps, mais riant malgré ça, doucement, sans bruit, et content tout de même. Or, vous connaissez la formule de la force de l'orang-outan. Elle est comme 7-1 à la force de l'homme. Pourtant, Bertrand, il avait tué Bimi avec telles armes que Dieu lui avait données. Voilà le miracle. L'infernale clameur recommença dans la cage. « Ah ah, notre ami là-bas a toujours trop d'ego dans son cosmos. Repos-toi » Hans modula son sifflement venimeux et prolongé. On pouvait entendre la puissante brute trembler d'effroi dans sa cage. « Mais au nom du ciel, pourquoi n'avez-vous pas aidé Bertrand au lieu de le laisser tuer » demandai-je. « Mon cher, » dit Hans en s'étirant avec componction avant de s'endormir, « ça n'était pas séant, même pour moi, de continuer à vivre après ce que j'avais vu dans cette chambre au plafond troué. » Et Bertrand, c'était le mari. Bonsoir, dormez bien.